Bonsoir à tous. Donc, je me présente Emmanuel Parent, un des responsables des éditions Mélanie Sétain, qui sommes à l'origine de cette soirée et co-organisateur du colloque Peut-on parler de musique noire avec les laboratoires ADES et CEAN et notamment Yves Rébeau du laboratoire ADES de l'Université de Bordeaux. Donc le colloque se déroule demain au Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibault. Mais on avait souhaité, en avant-première, en partenariat avec la librairie Mola, faire venir deux protagonistes importants de cette journée demain, puisque Philippe Tag, que je vais présenter, ouvrira en plénière la journée de demain, et Denis Constant-Martin, la Clora. Je dois aussi excuser Pape Ndiaye qui ne viendra pas malheureusement. Je m'excuse pour ceux qui souhaitaient le voir ce soir. Il étant souffrant, il a dû annuler sa présence ce soir et aussi demain malheureusement. C'est pas grave, nous avons deux intervenants d'excellente qualité ce soir. Je suis très très heureux de les présenter. Donc, si vous voulez, Philippe Tag est un musicologue anglais qui a fait sa carrière en Suède, en Angleterre et dernièrement au Canada à l'Université de Montréal. C'est un des fondateurs de l'IASPM, International Association for the Study of Popular Music, une association donc de chercheurs créée au début des années 80 pour faire avancer la recherche sur les musiques populaires. Et donc c'est pour nous quelqu'un de pionnier dont les textes font référence depuis maintenant une trentaine d'années. Et il a écrit, il vous en reparlera mieux que moi, mais en 1985 ou 87, une lettre ouverte sur les musiques noires, afro-américaines et européennes. Une lettre ouverte, donc sur le ton de la polémique, qui a beaucoup fait débattre dans le monde anglo-saxon à l'époque. Et nous, en tant qu'éditeurs, les éditions Mélanie Sétain sont une maison d'édition associative qui publie des travaux de sciences humaines sur les musiques populaires, donc dans la même logique que le travail de l'IASPM. On a souhaité rendre accessible en français cette lettre au public français et francophone dans cette revue, donc, que vous avez dû voir, la revue Volume, qui est une revue de sociologie et plutôt pluridisciplinaire, donc pas que de sociologie, sur l'étude de la musique populaire. Et d'ailleurs, un numéro coordonné justement par Yves Rébeau, Géographie, musique et postcolonialisme, dans lequel il y avait une version française retravaillée, parce qu'elle était déjà parue sur Internet, mais là, elle était mieux mise en valeur, mieux valorisée. Pourquoi on l'a republié? Pourquoi republier un texte qui avait déjà 20 ans? C'est qu'il nous semblait toujours actuel, pour plein de raisons, et assez curieusement, ça n'a pas raté. Sa réception dans le champ universitaire français depuis 2 ans a été encore vive, pas forcément polémique, mais a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, suite à la publication de la republication et donc en français de cette lettre ouverte, on s'est dit pourquoi pas avec Yves, pourquoi pas organiser un colloque où on reposerait cette question. Peut-on parler de musique noire? Question bête de philosophie première ou de musicologie première, pourrait-on dire, mais qui finalement est assez complexe à résoudre. On ne peut pas la balayer du revers de la main. Et une vingtaine de chercheurs se réunissent demain pour apporter de multiples contributions en parlant des expressions diasporiques de la musique noire. Donc, aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique latine, que ces allers-retours transatlantiques, notamment du rap, États-Unis, Afrique, Europe, mais aussi des expressions musicales créoles en Guyane, à La Réunion, etc., etc., etc. Voilà, donc voilà pour le colloque de demain. Évidemment, je vous invite à nous rejoindre. Vous avez différents dépliants à l'entrée et puis la plaquette du colloque que nous avons édité, qui reprend les principales... Les résumés en fait des contributions. Et voilà pourquoi ce soir on souhaitait revenir un petit peu. Donc Philippe va revenir sur ce qui l'a motivé à écrire cette lettre et comment il a vécu ça et quel retour il a eu. Ensuite, Denis Constant-Martin qui répondra à Philippe Tack demain dans son intervention, mais il ne va, va pas revenir là-dessus. Là, il est venu pour présenter son livre qui vient de paraître aux éditions Mélanistin, donc chez nous, « Quand le rap sort de sa bulle, sociologie politique d'un succès populaire », qui est un ouvrage de sciences politiques, mais aussi d'analyse musicologique sur la rappeuse Diams. Alors, ce n'est pas immédiatement de la musique noire. Ne cherchez pas aujourd'hui un lien direct entre l'intervention de Denis Costa-Martin et celle de Philippe Tack. Mais néanmoins, et c'est là peut-être que Papendia y aurait fait la transition, on s'aperçoit que aujourd'hui, en France, dans le champ universitaire, la musique populaire fait l'objet de plus en plus d'attention. Et Papendia, lui, milite par ses écrits pour une prise en compte aussi plus conséquente de la question noire. Alors, Diams, ce n'est pas une chanteuse noire, mais le rap est inscrit justement dans cette nébuleuse des musiques noires. Et voilà, Denis Constant nous parlera de son ouvrage, qui est novateur à plus d'un titre, parce que d'habitude, quand on s'intéresse au rap, on essaye de thématiser le rap comme expression révoltée des banlieues, musique alternative, underground, révolutionnaire. Là, le parti pris de cet ouvrage, c'est de dire la rappeuse Diams a produit un album en 2006 qui s'appelle Dans ma bulle, qui a été le plus vendu. Et s'interroger pourquoi une musique comme celle-là est aussi populaire, qu'est-ce que ça peut bien signifier dans la société française, ça doit retoucher des valeurs qui sont au centre, enfin qui traversent un petit peu les mutations de la société en ce début de 21e siècle. Donc il nous en parlera tout à l'heure, cet ouvrage vient de sortir, même en avant-première, parce qu'il n'est pas encore disponible dans toutes les librairies de France, ça viendra bientôt, mais on a souhaité faire coïncider la sortie de cet ouvrage avec cette manifestation, peut-on parler de musique noire, voilà, qui met un peu aussi en avant le travail des éditions Mélanie Sétain. Philippe, est-ce que tu veux commencer?
Oui, je suis très nerveux. D'abord, je m'excuse pour mon français à l'accent britannique et québécois à la fois. J'espère que vous aurez l'indulgence et la gentillesse de m'excuser. J'ai pas l'habitude de jaser comme un universitaire français de France. J'espère que mais mon français est bien rouillé après 3 mois de retour en Angleterre. Je ferai de mon mieux de vous présenter la chose de la façon la plus efficace, etc. Mais ça, ouais, on va voir. Emmanuel, il m'a demandé de donner un peu de background, les motivations, contexte historique, etc. De cette lettre. D'abord, je veux souligner que ça m'a gêné. Vraiment gêné d'écrire cette lettre. Je l'ai remise à plusieurs reprises parce que je ne voulais pas toucher à ça, parce que c'est comme si moi, comme être mâle, un homme, allait écrire sur, disons, ou mettre en question la notion de féminisme. C'est pas cool si un homme le fait. Et de mettre en question la notion de la musique noire par un blanc, c'est pas donné. Donc j'avais vraiment... je me sentais très mal à l'aise. Mais plus que j'y pensais, plus que j'ai réalisé... C'était qu'il ne s'agissait pas, d'une autant de problématiser la musique noire, mais plutôt de problématiser sa contrepartie, la musique européenne. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, au début, mon background. Comment ça se traduit en français? Mon background.
Mon expérience.
Mon expérience historique, mon préhistoire. ma préhistoire. C'était. Je suis originaire d'une famille de la classe moyenne britannique. Mes parents étaient des enseignants. C'était une classe. A beaucoup de capital culturel, pour citer un de vos maîtres, mais sans du vrai capital. Donc, nous autres, on était obligés toutes les vacances de trouver un job dans, je sais pas, sur les chemins de fer ou comme éboueur, j'ai fait ça, c'est génial, et de vivre deux milieux. Moi, j'étais bilingue, il fallait que je parle l'anglais de chez moi, c'est un dialecte, je ne sais pas, il a un for a half a comme, comme cela, mais il a, I had to speak good BBC English also like this. Donc, cette bilinguisme, ça touchait aussi à la musique. Et bien sûr, pour des raisons économiques, en tant que musicien, parce que j'ai eu une formation de musicien organiste au début à l'Université de Cambridge et puis en éducation à Manchester. Et pendant cette éducation, j'ai de cette formation officielle, institutionnelle, j'ai dû gagner la vie. Et je gagnais la vie en, peut-être en jouant l'orgue au funérailles. C'était le premier gage que j'ai eu. Le deuxième gage que j'ai eu, c'était en jouant le piano Oompa 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 Papa pour des danseurs de danse populaire écossaise. Et le troisième, c'était R&B. On a commencé avec des rhythm and blues en 62, même avec du James Brown à l'époque. Donc, lors de mon éducation formelle, c'était très difficile dans un sens parce que j'étais obligé d'incorporer dans mon intérieur. En tant qu'une seule personne, trois différentes cultures. Et ces trois cultures, le folklorique, le soi-disant savant, la soi-disant savante et la populaire amplifiée, ça ne me causait pas d'ennui personnellement, mais vivre dans trois milieux différents culturels, ça me causait vraiment des ennuis. Donc, je reconnaissais la difficulté et l'expertise qui étaient nécessaires pour faire du rock ou pour faire du bon musique folklorique écossaise. Et ça me semblait absolument absurde que ces compétences n'étaient pas reconnues dans les institutions qui m'éduquaient à l'époque. Donc, quand je suis devenu un peu plus âgé, et j'ai eu l'occasion de devenir prof universitaire moi-même, j'ai insisté qu'il fallait le faire, et on a fondé en 81 l'Association internationale l'IASPM pour les études de la musique populaire. Ça, c'est en général pour le populaire, mais cette espèce d'apartheid de stylistique musicale est parallèle avec l'espèce d'apartheid conceptuel qui existe dans les têtes surtout des libéraux ou des intellectuels blancs, européens et nord-américains en ce qui concerne la musique noire et la musique européenne. On ne dit pas blanche, je ne sais pas pour quelle raison, mais on peut le discuter pourquoi c'est la musique européenne et la musique noire. De toute façon, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'était tout à fait musical. Dans les mélodies écossaises, on a des rythmes qui font, excusez-moi, je vais faire des bruits plutôt que des paroles. On a des rythmes qui s'appellent des scotch snaps. Ce sont des pointures inverties à l'envers. Au lieu d'avoir da-da-da-da-da-da, on a da-da-da-da-da. Et ça existe dans la langue anglaise, dans la langue gaélique écossaise et gaélique irlandaise, et dans l'hongrois. Mais pas dans d'autres langues, absolument pas dans le français, et absolument pas du tout dans l'italien. Da-da-da. Nous n'avons pas ça en anglais. En fait, vous avez peut-être le remarqué. Et da-da, ça c'est un rythme qui commence souvent les timelines données par des gens de l'Afrique occidentale. Quand on leur demande « c'est quoi le temps ici ?» Et on va te dire... ils vont commencer avec un taganka, et puis il va. Et ce que nous, les Européens, éprouvons comme un downbeat, comme un temps fort, ça devient un upbeat, et puis ça change tout le temps. Et c'est pour cette raison-là que un monsieur allemand qui écrivait dans les au milieu du 18e siècle à Philadelphie s'est plaint qu'il ne pouvait pas distinguer entre les Scotch and Nigger melodies. Juste à cause de cette petite astuce qui est dans la musique écossaise et un peu dans la musique anglaise pré-industrielle, bien sûr, et pré-urbaine, mais aussi dans la musique, le pentatonisme. Pentatonicité? Pentatonisme connu, reconnu, bien sûr, aux îles Britanniques et, bien sûr, dans l'Afrique occidentale. Donc, ça m'a frappé. Et une autre chose qui m'a frappé, c'est ma mère qui me chantait non seulement des airs classiques populaires et de petites berceuses nursery rhymes, mais aussi des chansons un peu plus folkloriques qui contenaient des tierces mineures et des septièmes mineures et tout cela, avec des cadences mélodiques qui faisaient ti-di-di-di-di-di. Je pense, I love the way you walk. C'est du rhythm and blues, mais c'est aussi du folklore britannique. Donc, il y avait des aspects, c'était pas du tout la même chose, mais il y avait des aspects dans ces deux musiques, dans la musique folklorique des îles britanniques pré-industrielles, d'un côté, et dans les blues. Dans beaucoup de musique d'origine afro-américaine sur le continent nord-américain qui se ressemblaient. Et ces similarités m'ont frappé tellement que je me suis dit, il faut que je dise quelque chose. Je ne peux pas continuer à faire semblant de croire que les différences entre ces deux musiques sont plus grandes que les similarités. Parce qu'autrement, comment expliquer le fait que le mariage que la musique populaire états-unienne et nord-américaine peut-être en général a pu avoir produire une acculturation tellement forte. Ce n'est pas seulement une question de l'économie et de l'hégémonie financière mondiale des États-Unis. Il doit y avoir aussi, je spécule, bien sûr, de bonnes bases musico-structurelles pour cela. Puis, plus que je m'approfondissais un peu de façon un peu amateur, parce que je suis musicien, musicologue et pas politologue, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres aspects réductionnistes, est-ce que c'est un mot?
Réducteur.
Reductionist, oui, c'est ou essentialist, c'est pas la même chose.
Oui, d'accord.
Philosophiquement, je ne le sais pas, mais réductrice.
Essentialiste.
Essentialiste, ok. Du noir et du blanc. Et avec des pôles, des polarités qui sont assez bizarres. Le premier que je vais mentionner demain, mais pas parler, donc je vais en parler aujourd'hui, c'est que le corporel soit assimilé, par nous, les intellectuels un peu progressistes blancs, avec la musique africaine, et que le cérébral soit assimilé à la musique européenne. Cela m'a toujours paru un peu étrange, mais ça m'a frappé de façon très, très forte après deux, trois semaines au Ghana. D'abord, avant d'aller au Ghana, j'ai demandé à mon copain de Clévor de me montrer. Je lui demandais un peu de décrire, s'il vous plaît, la musique. Il est du peuple Ewe, et il m'a fait cette rythme 6 ici. Et il m'a demandé quelque chose de métallique. Et on sait bien sûr que des sons aigus, ça résonne beaucoup plus dans la tête que dans l'estomac ou dans les fesses. Tandis que la basse, ça sonne ici dans l'estomac et dans les fesses. Et si on a la ligne organisatrice de rythme dans la tête, cling, 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 et pas boum, 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 ça veut dire que... ça, c'est l'organisateur du rythme qui se fait valoir plus bas dans le corps. Comment est-ce que je peux dire des choses aussi absurdes? Oui, parce que pendant ma visite au Ghana, on nous a montré à la télé à Accra un film qu'on a fait avec Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, quand il est arrivé pour faire de la musique avec des musiciens ghanéens. Et au concert, là où il participait, et quand il était assis pour écouter les musiciens ghanéens, lui, Mick Fleetwood, il faisait son headbanging, comme ça. Comme ça.
Qui était ça?
Mick Fleetwood, ça c'est le guitariste de Fleetwood Mac, le groupe rock. C'était le groupe préféré de Bill Clinton. Don't start talking about tomorrow. No. Un anglais. Bon, le lendemain, je suis allé à un concert de High Life, de la musique High Life, et tout le monde était assis pour écouter, et personne ne bougeait. Selon mon stéréotype des Africains, ils doivent être en mouvement total. Mais c'était tout à fait still, pas un mouvement. Et je me suis demandé pourquoi. Mais c'était évident, parce que là, c'était le rythme. Et assis, c'était très difficile de se bouger, de se déplacer du tout. Deux jours après, je suis allé au funérailles, ce qui est une célébration, une festivité d'un guitariste High Life qui est mort. J'ai remarqué la danse qui était tête, still head,
immobile,
and moving lower, middle and lower body. Donc, le corporel comme chose africaine, oui, mais c'est parce que le cerveau est en contrôle, en quelque sorte. Tandis que nous autres, c'est le cerveau qui perd le contrôle parce que notre corps est mis dans une espèce de motricité monorythmique. De toute façon, je ne fais que spéculer, mais c'est une question que je pose sur les stéréotypes du blanc et du noir. Oh, wow. OK. How much time?
10 minutes, 20 minutes.
Oh, my God. OK. J'espère que je ne vous ennuie pas trop, mais j'essaie de... All right. Qu'est-ce que j'ai sur cette page-là? OK. Oui, dans l'article, j'essaie d'être un peu comme un prof d'école et faire mes définitions, etc. Et je pense que la définition du noir et du blanc, c'est très important. Mais est-ce que ce sont qui les noirs? Quels noirs? Et nous, les blancs, ce sont lesquels? Est-ce que ce sont nous les blancs qui connaissons les traditions à tierce mineure et à septième mineure avec des scotch snaps, ou est-ce que ce sont les accordéonistes à Paris en 1910? Est-ce que c'est ce sont les danseurs de l'Andalousie ou ce sont les violonneux scandinaves? C'est pas du tout la même chose. Ce sont des traditions très, très différentes les unes des autres. En Afrique, je ne vous insulterai pas en citant des exemples, mais comme tout le monde le sait, la musique, même si on dit... au sud du Sahara, ce sont des traditions vraiment différentes musicales. Khoisan et Somalia et les Mende, c'est pas la même chose du tout. Donc, il faut être beaucoup plus précis. Et ce qu'on doit faire aussi avec les Blancs et les Noirs aux États-Unis pendant l'histoire et le développement du style, des styles populaires sur ce continent-là, ça serait de savoir à quelle époque on est Noir, ou aux États-Unis on est Noir et pas Blanc, ou Blanc et pas Noir, et d'avoir une idée de toutes ces choses-là, parce qu'autrement, on va finir dans l'essentiel, l'essentialisme. Oui, Centre européen, j'ai dit ça, 3, 4. Oui,
Ce qu'on peut peut-être, peut-être juste rappeler pour les gens qui n'ont pas forcément lu ta lettre, c'est que donc... L'argument principal, et dont Philippe vous a donné le background, c'est que nous attribuons à la musique noire, assez sans y réfléchir, de nombreuses qualités qui, en les interrogeant un peu, étaient peut-être aussi présentes dans les folklores européens. Et c'est toute cette complexité voilà, que Philippe interroge dans sa lettre. Et ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure, c'est que ça groove aussi dans le folklore que lui enseignait sa mère. Et voilà, donc c'est plein d'exemples qu'il donne dans sa lettre ouverte, mais qui nous aident à complexifier et à remettre en cause des... Ce que tu observais aussi, c'est que très facilement, même les intellectuels libéraux progressistes avaient tendance à savoir... Tout le monde sait très bien ce que c'est la musique noire, et personne ne s'interroge véritablement sur ces qualités qui sont censément les plus noires, les blue notes, le groove, le scotch snap, c'est-à-dire cette idée de downbeat, de contretemps. Voilà. Et dès qu'on s'interroge un peu plus précisément musicologiquement, on voit que tout ce bel édifice se désagrège, et c'est ce que tu as voulu mettre en lumière dans ta lettre.
Oui, le problème, c'est que dans les deux cas, c'est un point de vue hégémonique officiel des institutions des connaissances qui prend charge. Par exemple, les tons non conformes aux 12 intervalles égaux de la gamme tempérée centre-européenne, ça s'est identifié à la musique européenne. Et tout ton qui diverge de ce système de tonal est censé être de l'autre, et l'autre le plus facile à identifier dans ces contextes-là, c'est bien sûr le noir sur le continent nord-américain, dans le contexte nord-américain, bien sûr. Et les tons conformes, si ça c'est pour les tons conformes et les tons non conformes, c'est eux autres. Et l'autre, il faut les projeter. Même si c'est évident dans la musique des îles hybrides, enregistrée par Torkel Knudsen pour l'Okora aux années 50 ou 60, que c'est bourré de tierces dites neutres. Et même si dans le Kentucky, on trouve des gens qui chantent des harmonies avec des blue notes et de tradition tout à fait isolée pendant 150 ans. On parle aussi, il y a aussi des questions qu'on peut poser sur les mélismes. Dans le bouquin de Nketiah, le professeur ghanéen de musique, quand on regarde la mélodie, il y a beaucoup de choses vraiment, vraiment intéressantes, avec des rythmes très, très intéressants, mais il y a très peu de mélisme, c'est-à-dire on peut avoir un chant syllabique, ça c'est une note par syllabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une nouvelle note pour chaque note.
Chaque syllabe.
Et où on peut avoir Alléluia, Alléluia, ça c'est mélismatique, ok? Bon, les mélismes sont, historiquement, il me semble, sont beaucoup moins communs dans la musique afro-américaine au début, que par la suite. Et le contraire pour la musique européenne. C'est-à-dire que les mélismes sont très communs dans le folklore, mais disparaissent de plus en plus chez les Blancs. Et le banjo, c'est à l'envers. Le banjo, ça commence à... C'est bien sûr, c'est très similaire au cora sénégalais. Ou c'est correct, le cora?
Le cora, oui.
Oui. C'est un instrument qui est censé, de toute façon, être d'origine de l'Afrique occidentale. Mais ça devient, pour des raisons historiques et idéologiques, un instrument identifié presque uniquement avec les Blancs, et les Blancs conservateurs et réactionnaires des États du Sud. Donc, parler des structures ou des objets musicaux comme s'ils avaient une identité fixe à un tempo, je pense que c'est pas un bon point de départ. Même si il y aura d'autres aspects peut-être un peu plus compliqués, un peu nuancés, je suis très prêt à le croire, qui peuvent être liés à l'un ou l'autre des deux continents. C'est à peu près ça que le contenu, mais seulement pour une espèce de post-lude, c'est que les réactions que j'ai eues, je ne suis qu'un pauvre musicologue, je ne suis pas un philosophe ou un politicien, c'est que il y a deux types de réactions. La réaction que j'ai beaucoup aimée, c'est professeur Nketiah qui m'a dit « C'est évident. À quoi bon de l'écrire? Tout le monde le sait. » Puis j'ai eu mais tu fais une caricature totale de la musique européenne, de l'Europe centrale. Oui, en quelque sorte, je le fais, mais ce n'est pas moi qui fais cette caricature. Ce sont les profs, certains profs dans les institutions qui enseignent ces musiques, qui falsifient, franchement, beaucoup d'aspects dans la musique centre-européenne. Et le troisième, c'est que comment oses-tu nous enlever notre patrimoine? Et ma réponse, là, c'est pas moi, personnellement, qui vous nie une identité. Les identités ont été tellement compliquées entre les deux groupes pendant plusieurs siècles. Je préfère voir beaucoup plus et souligner les similarités pour que la question de race ne remplace pas la question de la classe. Et il ne faut pas que la race remplace la classe. Oh, that's quite good in French.
Oui, très bien.
Ouais. Bon, wow. Oui, non, ça doit suffire pour l'instant, je pense. Parce que là, je suis très nerveux avec le français. Mais est-ce que je suis compréhensible? OK. Est-ce que ça suffit?
Eh bien, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais on passera aux questions du public à la suite de l'intervention de Denis Constant. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette lettre ouverte parce que... évidemment, it's fucking obvious, comme l'a dit ton ami Nketiah, c'est évident, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser ces catégories, parce que...
Ah oui, c'est ce que j'allais dire.
Peut-on parler de musique noire, mais peut-on ne pas en parler, hein, qui était le titre du commentaire de Yves Rébeau dans la revue Volume, parce que suite à cette lettre ouverte, si vous voulez, on a été plusieurs à faire un petit commentaire, voilà, 20 ans après, qu'est-ce que ça nous inspire? Et c'est vrai que je crois que c'est quand même une invitation à penser et à se défaire des présupposés un petit peu des préjugés populaires que même les savants reconduisent en permanence. Voilà. Et souvent, les savants se croient au-dessus des préjugés les plus populaires, alors qu'en fait, ils ne font que les relayer à leur manière. Donc, peut-être que des questions surgiront, je vous demande de les mettre de côté. Je vais passer la parole à Denis Constant-Martin. Bon, on change de sujet, il va nous parler de son ouvrage donc, sur la rappeuse Diams, quand le rap sort de sa bulle. Je ne sais pas comment tu as prévu d'articuler ton intervention. Je te laisse la parole, tout simplement.
Merci. Ben, d'abord, c'est un grand honneur, je dois le dire, et c'est vraiment en toute franchise, c'est un grand honneur pour moi de partager une tribune avec Philippe Tagg, parce que Philippe Tagg a été une grande inspiration dans ceux d'entre nous, en France, entre autres, mais dans le monde anglophone également, et d'abord dans le monde anglophone. Philippe Tagg a été une grande inspiration pour les gens qui ont essayé de faire de la sociologie de la musique et qui, en même temps, se disaient « on ne peut pas faire de sociologie de la musique, en particulier de la musique populaire, sans faire aussi de l'analyse musicale, mais comment peut-on faire ?» Et Philippe Tagg, non seulement a ouvert un débat extrêmement important sur lequel nous allons revenir en détail demain et puis tout à l'heure dans la discussion à propos de cette question, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, musique noire ? Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, c'est là où l'importance de l'analyse musicale entre en jeu, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a des caractéristiques musicales qui permettraient de définir une musique qui soit noire et de la différencier de musique qui ne serait pas noire? Et comme il le dit justement, on parle de musique européenne et de musique noire. C'est une terminologie très, je dirais, nord-américaine. On parle de musique européenne et de musique noire. On ne parle pas tellement de musique blanche et de musique noire. Bon, mais est-ce qu'il y aurait le fond de la question, c'est est-ce qu'il y a des caractéristiques musicales qui permettent de différencier ce qui serait une musique noire de ce qui serait une musique blanche. Et le fait d'avoir posé la question, même si, comme le dit Kwaben Anketia, la réponse est évidente, c'était important parce que, en fait, la réponse n'est pas si évidente que ça. Et en fait, le langage courant sur la musique, y compris le langage universitaire, continue de charrier ce vocabulaire, ces catégorisations, ces différenciations, cette forme, je vais employer un mot extrêmement polémique, extrêmement fort, mais cette forme d'apartheid musical en opposant la musique noire et la musique blanche. Alors, en dehors de ça, ce qui me relie à Philippe Tagg, finalement, paradoxalement, vous voyez que l'orgue mène à tout, au rap et aux musiques afro-américaines, c'est qu'il était organiste, malheureusement jeune, le suis pas, mon père était facteur d'orgue, donc c'est peut-être cela aussi qui nous relie, mais je vais pas rentrer dans des considérations plus biographiques que ça. Alors donc, le rap, musique noire, oui, mais Eminem, où est-ce qu'on le met là-dedans? Le rap, musique noire, oui, mais Akhenaton, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, alors Diams, où est-ce qu'on la met, elle en plus, qui d'ailleurs ne se définit jamais franchement selon les occasions. Elle s'est définie comme métisse ou comme blanche, la petite meuf blanche des zones pavillonnaires, ou bien la petite métisse qui a le cul entre deux chaises, je crois, c'est à peu près le genre de choses qu'elle a pu dire. Donc, c'est intéressant sur ce plan-là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, effectivement, fait le lien, fait le pont entre un certain nombre d'univers. Donc, le rap, oui, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est finalement? C'est du rap, mais est-ce que c'est de la musique noire? Est-ce que c'est de la musique blanche? Et est-ce que ça nous importe, en fin de compte? Est-ce que ça nous intéresse? Moi, je dirais honnêtement, pas tellement. Mais on y reviendra plus en détail demain, on pourra y revenir effectivement dans la discussion. Alors, ce que je dois dire d'abord, Emmanuel Parent a dit que c'était mon livre. Bon, c'est un livre que j'ai piloté, que j'ai organisé, que j'ai conçu, mais un livre qui n'aurait jamais pu exister sans le fait que j'ai enseigné pendant plusieurs années à l'Université de Paris 8 Saint-Denis, et je dois rendre hommage au département de musique de cette université, qui m'avait demandé de créer un cours de sociologie des musiques populaires, qui m'a permis d'enseigner ce cours de sociologie des musiques populaires pendant plusieurs années. Et c'est en fait dans le cadre de ce cours que ce livre est né, puisque en 2006, devant le succès, oui, c'était un cours qui avait lieu au second semestre, donc c'est bien ça. C'était en 2006, devant le succès qui commençait du disque qui était alors, à cette époque-là, le dernier disque de Diams, le CD intitulé Dans ma bulle, j'ai proposé aux étudiants, j'ai dit, après tout, si on essayait de faire un travail collectif là-dessus, en s'inspirant de méthodes, en s'inspirant, je dois dire, très modestement et de façon très, très lâche, des recommandations d'un musicologue, d'un collègue de Philippe Glass, Jean-Jacques Natier, qui est professeur de musicologie à l'Université de Montréal, et bon, qui a proposé un modèle d'analyse qui a pour ambition d'être un modèle d'analyse de musicologie générale, donc qui s'applique aussi bien aux musiques de l'ethnomusicologie, aux polyphonies pygmées de la République centrafricaine, aux chants des Inuits, à Wagner ou bien à Fleetwood Mac. Hein, donc c'est un modèle d'analyse qu'on peut utiliser pour tous ceux qu'il appelle des objets musicaux, ce que Jean Molineau, qui a précédé Jean-Jacques Natier, appelait des objets musicaux. Bon, et qui consiste grosso modo à dire, bon, faut d'abord procéder à l'analyse de l'objet musical lui-même, ensuite prendre en compte les conditions de sa production, et ensuite analyser les manières dont il a été reçu. Et la signification sociale que peut revêtir une musique est le résultat de ce procès de ce triptyque, si l'on peut dire, de ce procès en trois phases. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail ici. Donc, on a divisé, les étudiants se sont formés en groupe, et puis, à la fin de l'année, il s'est trouvé qu'il y avait deux, je leur ai demandé de faire des exposés, des mémoires, ce qu'on fait habituellement dans le cadre universitaire, et à la fin de l'année, il s'est trouvé qu'il y avait deux mémoires faits par chacun trois groupes d'étudiants qui étaient absolument remarquables et qui se trouvaient être celui qui avait pour sujet l'analyse musicale d'un corpus, donc d'une sélection de chansons prises dans le CD dans ma bulle, et l'autre qui portait sur l'analyse des textes, puisqu'on avait séparé ce qu'il faut faire dans ce cas-là, pour ensuite les remettre ensemble, on avait séparé l'analyse des textes et l'analyse de la musique. Donc voilà, ça, je ne vais pas en dire davantage là-dessus, mais simplement ce livre n'aurait jamais pu voir le jour sans le travail effectué par Laura Bruno, Mariano Fernandez, Soizic Forgeon, Frédéric Hervé, Pélagie Mirand, Zulma Ramirez, et notamment pour la raison très simple, c'est qu'ils étaient tous étudiants en musicologie. Ils avaient tous des capacités, des compétences, et certains d'entre eux avaient des compétences particulièrement élevées en analyse musicale que je ne possède pas. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre en commun, finalement, les compétences des étudiants, qui étaient des compétences d'analyse musicale que je ne possède pas, puisque je suis de formation sociologue et politologue, et justement mon expérience de sociologue. Et en mettant ensemble ces compétences, on a produit ce texte. Après ça, c'est au lecteur de juger ce qu'il vaut et si cette combinaison a marché. Alors, pourquoi s'intéresser à Dans ma bulle ? Bon, effectivement, parce qu'en 2006, ça a été le disque le plus vendu. 2006-2007, ça a été le disque le plus vendu, toute catégorie. Si on met ensemble le jazz, la variété, la chanson, la musique classique, etc., c'est Dans ma bulle qui est arrivé en tête de tous les classements, entre 800 000 et 1 million d'exemplaires vendus, sans compter, évidemment, aujourd'hui, il faut prendre ça en considération, sans compter les téléchargements, les piratages, etc., etc. Donc, c'est un énorme succès, mais ce n'est pas le succès en tant que succès d'un point de vue commercial qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est que un succès pareil dans ce domaine-là, ça représente ce qu'on peut considéré en termes sociologiques comme un phénomène social. Et c'est donc ce phénomène social que nous avons voulu interroger. Interroger non pas pour nous demander qu'est-ce qui avait fait le succès de Dans ma bulle. Bon, c'est intéressant, mais ça n'était pas le centre de notre propos. Notre propos était plutôt le suivant, c'est-à-dire, bon voilà, si on accepte qu'on peut considérer un disque comme Dans ma bulle, qui connaît un succès particulièrement important, si on peut le considérer comme un phénomène social, qu'est-ce que ce phénomène social va nous dire de la société française à l'époque où il se produit ? Donc, qu'est-ce que le phénomène social Dans ma bulle nous dit de la société française en 2006-2007 ? Je rappelle pour ceux d'entre vous qui l'auraient oublié que 2007 est l'année où Nicolas Sarkozy a été élu président de la République et que donc 2006-2007, c'était une période où il y avait une pré-campagne, puis une campagne électorale particulièrement intense. Donc, on peut se dire, voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'un phénomène social, comme Dans ma bulle, va nous apprendre de cette France-là ? Et en particulier, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, peut-être plus spécialement, des visions du monde partagées par les tranches générationnelles qui forment l'auditoire le plus commun de Diams, c'est-à-dire des préadolescents, des adolescents et des jeunes, pour employer des catégories très floues. Alors, comment répondre à cette question ? Je vais dire, en combinant, et ça c'était le présupposé, on va combiner analyse musicale, puisqu'il y avait des étudiants qui avaient la compétences pour faire ces analyses musicales, analyses littéraires et analyses sociologiques. Alors, très rapidement, qu'est-ce que ça donne ? D'abord, bon, l'analyse, et c'est là où on voit que l'analyse musicale est très importante pour comprendre comment s'articulent les différents symbolismes, les différents niveaux de symbolisme qui sont agrégé dans une œuvre musicale. Bon, quand je dis œuvre, là, je parle de l'ensemble du CD et plus spécialement du corpus, de la sélection de chansons, appelons-les chansons, sur lesquelles nous avons travaillé. Alors, première chose, c'est pas absolument original quand on parle de la techno, quand on parle du rap, quand on parle même des musiques électroacoustiques en général qualifiées de contemporaines, comme si le rap et la techno n'étaient pas des musiques contemporaines, mais ça, c'est un autre débat. Première chose, on a des processus de création, des processus de composition qui sont véritablement compositionnels, c'est-à-dire où on va positionner avec, on met ensemble des éléments. On a des processus de composition qui sont basés sur la combinatoire. Et la combinatoire d'éléments qui, au départ, sont hétérogènes, qui peuvent être pris à l'extérieur, bon, c'est le cas bien connu de tous les échantillons, ce qu'on appelle les samples, les samples dans le rap, mais ça peut être également d'autres éléments. Donc des éléments qui sont pris dans des banques de sons hein, que les concepteurs musicaux stockent dans leurs ordinateurs et qui sont ensuite assemblés et assemblés avec et liés par des éléments qu'on pourrait qualifier d'endogènes, des éléments créés spécialement pour la circonstance par les concepteurs musicaux. Et j'utilise pas le terme compositeur ici, parce qu'il me semble que dans des musiques, pour des musiques telles que le rap, le terme de concepteur au pluriel, parce que c'est rare qu'il y ait une seule personne qui s'occupe de la musique quand on fait du rap. Ah, il y a le DJ qui est sur les platines, et bon, notamment dans les concerts de Diams, on voit DJ Dime qui est au sommet, qui trône au sommet de l'édifice de scène, etc. Mais en fait, derrière ça, il y a un travail de studio qui est absolument énorme où il y a beaucoup d'intervenants qui sont là. Donc, on a des procédés de conception basés sur la combinaison. Et cette notion de combinaison, si on la place à un niveau symbolique, on va voir que lorsqu'on aborde la question des valeurs sociales qu'on peut entendre dans le CD dans ma bulle, on va voir que ça prend une dimension particulièrement importante. Bon, deuxième chose qui ne tient pas seulement à la musique, mais également au discours tenu sur la musique et à ce qui est montré de la fabrication musicale dans des documentaires consacrés à la confection de Dans ma bulle. Bon, il y a une insistance sur l'importance du travail, l'intensité du travail, le côté staccanoviste des gens qui sont en studio, qui passent 6 mois en studio pour sortir un disque de rap. Ce que je dis là n'a évidemment aucune dimension de jugement esthétique. Hein. C'est-à-dire que ici, dans ce type d'approche, on ne s'occupe pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas ce genre d'objet musical. Le problème, c'est de le prendre comme un phénomène social et de l'analyser en tant que tel. Donc, quand je dis qu'il y a énormément de travail, après ça, on est libre de penser ce travail, il aboutit à quelque chose d'intéressant ou il aboutit à quelque chose de pas intéressant. Mais quand on a conscience de l'importance du travail et de la façon dont le travail est réalisé, peut-être que cela peut parfois aussi influer sur le jugement esthétique en se disant « bon, et finalement, si je sais qu'il y a un certain type de travail, je vais mieux entendre ce qu'il y a dans le produit que j'ai à ma disposition. » Et enfin, ce qui est très bien montré dans le chapitre d'analyse musicale, c'est qu'à travers ce disque, il y a la mise en jeu très particulière d'un rapport, à travers le disque et à travers les DVD qui montrent la fabrication du disque, il y a la mise en jeu d'un rapport très particulier entre individuel et collectif, entre l'intime et le social, qui est un rapport non hiérarchique. Et donc, à travers la musique, on a quelque chose qui, au niveau symbolique, commence à émerger, qui est cette idée, bon, d'un travail intense qui fonctionne par utilisation de procédés combinatoires et qui aboutit à une sorte de nouvel ordre, une sorte d'ordre non hiérarchique, mais qui est un ordre quand même. Et c'est là où il y a quelque chose qui me semble digne d'attention. Alors les thématiques, bon, une fois qu'on a fait cette analyse musicale et qu'on commence à voir un peu quelles sont les symboliques qui émergent de la dimension proprement sonique. Le vocabulaire de la musicologie et de la critique artistique en général est très est très handicapant quand on travaille sur ce genre d'objet. Parce qu'on n'a pas envie de parler de compositeur, on a on n'a pas envie d'isoler les paroles et la musique. Quand on va parler du rythme, on s'aperçoit que le rythme, il est autant dans les paroles que dans le fond sonore. Voilà. Et si on dit fond sonore, ça a l'air d'être de le mettre au second plan. Hein. Ça a l'air d'être justement un petit peu méprisant. Alors qu'on a une combinaison de tous ces éléments. Alors donc, on emploie parfois, et je vous prie de nous en excuser, on emploie parfois un vocabulaire qui n'est pas suffisamment précis. Peut-être qu'il faudra réfléchir. La création d'une sorte de métalangage technique plus précis que ça. Alors, si on regarde les thématiques maintenant, donc plus ce qui ressort des paroles de ce qu'on appellera des chansons rap à défaut d'un meilleur terme, ou les paroles des rap. Bon, on va y trouver encore quelque chose qui relève essentiellement de la combinatoire. Bon, on sait. Focalisé parce que ça nous a finalement sauté à l'oreille ou sauté à la figure. On s'est focalisé sur la question des valeurs sociales, des normes sociales. Finalement, de cette dimension éthique qu'il peut y avoir dans les paroles d'une chanson. Et on s'est aperçu que finalement, ce qu'on entendait là-dedans, c'était à nouveau des combinaisons et des combinaisons de valeurs qui, dans la société où nous vivions, où nous vivons toujours, 2006-2007, étaient généralement, et quand je dis généralement, c'est dans le discours commun de l'information, de la radio-télévision, de la presse, etc., et en particulier dans le discours de l'analyse politique, généralement considérés comme des valeurs antagoniques, des valeurs opposées, des valeurs contradictoires, des valeurs qui ne pouvaient pas être ensemble, des valeurs qui étaient soit de droite, soit de gauche. Alors que qu'est-ce qu'on entend ? Alors on a un axe, évidemment. On a effectivement quelque chose qui va unir tout ça, c'est... Et ça, bon, c'est pas nouveau dans le rap, c'est le côté respect. On a le respect qui implique la tolérance et qui, évidemment, implique l'antiracisme et l'anti-xénophobie. Mais autour de cet axe, on va avoir effectivement agrégation de valeurs qui sont habituellement considérées comme des valeurs contradictoires. L'individualisme et la solidarité, eh ben, pour rap, pas pour Diam, c'est pas seulement pour Diam, pour un certain nombre d'autres rappeurs, individualisme n'est pas contradictoire de solidarité. On va voir effectivement ce qui s'apparente à une dénonciation du système avec en même temps énonciation de l'aspiration à se faire une place dans le système. Ce qui équivaut à effectivement changer certaines règles du système sans le changer totalement, ce qui fait en grande partie la différence par exemple entre Diam et une de ses collègues comme Kenny Arcana. Oui. On va trouver la critique de l'école. Alors là, c'est ce que tout le monde ou presque connaît, en tout cas les moins vieux. Chez Diam, c'est la boulette. Non, c'est pas l'école qui nous a donné nos codes. Et en même temps, il y a une espèce de leitmotiv permanent chez Diam, et là encore, elle est héritière de l'histoire du rap français, qui est « Instruisez-vous, cultivez-vous ». Et là, par exemple, là encore, si vous connaissez « Jeune demoiselle recherche un mec mortel », le mec mortel, il doit être cultivé. Alors bon, il faut qu'il soit un peu à la Beckham, un peu à la Zidane, mais c'est pas bon, ça vaut pas grand-chose s'il n'est pas aussi cultivé. Il y a cette obsession-là. Et puis, dernière chose qui est particulièrement frappante, il y a effectivement dans ce rap une très grande tolérance morale, mais en même temps une insistance sur la centralité de la famille comme la cellule fondatrice de la société et une importance extrême accordée à la fidélité. La dénonciation de l'infidélité est alliée à la tolérance morale dans ce système de valeurs. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que ces combinaisons de valeurs habituellement jugées comme contradictoires, on les trouve ailleurs, chez des gens qui très certainement n'écoutent pas du rap, mais qui ont fait des enquêtes. Il y a toute une équipe équipes de sociologues qui ont travaillé sur l'évolution des systèmes de valeurs en France depuis une trentaine d'années, grosso modo depuis les années 80. Intéressant d'ailleurs puisque le rap en France démarre au début des années 80 et Diam c'est le même, est né en 1980. Donc on a une espèce de conjonction temporelle qui ne dit rien d'autre que ça, mais qui est intéressante. Et ces sociologues, les équipes de Pierre Bréchon ou d'Olivier Galland, ont discerné des tendances longues de l'évolution des systèmes de valeurs et ils font le même constat que ce que nous avons entendu dans ma bulle. C'est-à-dire que on voit émerger, notamment chez les jeunes, des combinaisons de valeurs qui étaient jugées autrefois ou qui sont toujours jugées dans le langage ordinaire, dans le langage courant, comme antagoniques. Et Je passe rapidement là-dessus. Bon, l'analyse est évidemment beaucoup plus détaillée dans le texte. Et puis, encore une fois, on pourra y revenir dans la discussion si vous le voulez. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on revient sur les thèmes de campagne communs à Nicolas Sarkozy et à Ségolène Royal, hein, je dis bien les thèmes de campagne communs, on va trouver justement cet effort pour mettre ensemble, pour agréger des valeurs supposées contradictoires dans la, disons, dans l'ambition de toucher un public qui ne serait pas, quand je dis un public, c'est un électorat qui ne serait pas nécessairement leur électorat, entre guillemets, naturel. Évidemment, il faut mettre à part la dimension antiracisme, la dimension respect antiracisme, qui était fort peu présente chez Nicolas Sarkozy. Mais en dehors de ça, on a bien... qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est Diams qui a influencé Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, certainement pas. Mais qu'en revanche, les conseillers de l'une et de l'autre, qui n'écoutaient peut-être pas Diams, encore que, mais qui lisaient évidemment les sociologues pour prendre la température de la société française dans laquelle ils cherchaient à se faire élire, ces conseillers ont bien perçu les tendances longues discernées par les sociologues, et c'est donc pour cela qu'on a de deux sources différentes une convergence vers la mise en débat public de nouveaux systèmes de valeurs. Et je crois que c'est là que ça devient, que le rap devient intéressant, ou en tout cas que ce céder dans ma bulle phénomène social devient vraiment intéressant, parce que qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il y a, à un moment donné, dans une conjoncture historique donnée, émergence dans le débat public de tendances longues, de recombinaison des systèmes de valeurs qui étaient jusque-là plus ou moins souterraines, plus ou moins immatures, et qui qui progressivement, hein, sur l'espace de quelques années, vont apparaître complètement dans le débat. Alors, pour conclure, finalement, un travail comme celui-ci, à quoi ça rime, si on peut dire? Quel est, finalement, on a dépensé du temps, pas beaucoup d'argent, parce qu'on n'a pas eu, de financement particulier pour faire ce type de recherche, mais on a dépensé quand même du temps, de l'énergie, et Dieu merci, on a fini par trouver un éditeur, ce qui n'a pas été facile, et je dois rendre hommage à Emmanuel Parent et aux éditions Mélanie Sautin, parce que, on a quand même fait plusieurs tentatives pour faire publier ce livre ailleurs, mais il y a quelque chose qui effraie terriblement les éditeurs. Je ne sais pas si ça va se voir, voilà, c'est ce genre de choses. Voilà, il y a de l'analyse musicale, bon, il y a des transcriptions. Alors, c'est-à-dire que les gens qui ne lisent pas, moi, je ne lis pas tout ça parfaitement, j'en sais suffisamment pour comprendre la logique et puis pour voir si ça tient la route ou pas. Mais le lecteur peut faire confiance aux analystes et se contenter de lire les conclusions de l'analyse. Le musicologue ou le lecteur armé en musique pourra, lui, effectivement, vérifier les analyses et rentrer là-dedans. Mais bon, donc, voilà, simplement, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas été facile de trouver un éditeur. Dieu merci, si j'ose dire, nous en avons trouvé un et nous en sommes très heureux. Alors, à quoi ça rime, finalement, de publier un ouvrage pareil? D'abord, c'est peut-être de montrer simplement quelque chose qui n'a rien à voir avec le rap, ni rien à voir avec Diam, c'est dire que quand on veut faire de la sociologie de la musique, on confirme ce que nous a dit et répété Philippe Tag pendant des années, il faut faire de l'analyse musicale. Et la combinaison analyse musicale, analyse littéraire, analyse sociologique, elle est particulièrement fertile pour les musiques populaires. Et elle est fertile notamment parce qu'elle nous amène à une seconde conclusion. Le rap, contrairement à ce qu'on lit pratiquement partout, ça n'est pas, et ce qu'on lit très souvent, notamment dans une littérature anglophone, issue des cultural studies et qui parle des musiques dites populaires et qui a tendance à tout placer dans le domaine de la résistance, de la contestation, de la rébellion, etc. Bon, ce qu'on voit très bien ici, et c'est pas parce que c'est Diams, et on pourra discuter sur ce que représente Diams dans le rap français, mais c'est pas parce que c'est Diams. C'est une conclusion qui est valable pour l'ensemble des musiques populaires, on ne peut pas leur attribuer une signification politique, une orientation politique a priori, en décidant que tel ou tel genre est de droite ou de gauche, est conservateur et progressiste, est collaborateur ou est rebelle. En fait, il faut faire de l'analyse et on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est ambivalent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas l'une chose ou l'autre, c'est souvent un mélange des deux. Et de ce point de vue-là, Et je reviens à mes premières amours, si j'ose dire. Le rap correspond parfaitement à ce que le sociologue et anthropologue Georges Balandier mettait sous la rubrique générale des révélateurs sociaux. Les révélateurs sociaux, ce sont des manifestations, des phénomènes sociaux qui permettent d'appréhender les processus de mutation qui travaillent les sociétés et qui permettent de les appréhender avant que ces mutations deviennent manifestes. Phénomènes qui sont capables, et là je vais citer cette phrase de Balandier que j'aime beaucoup et que bon, certains de mes étudiants ont entendu déjà maintes et maintes fois, ce sont des phénomènes capables de détecter les courants du changement sous les eaux mortes de la continuité. Et le fait que le travail sur un objet musical tel que ce disque de Diams dans ma bulle nous a fait réfléchir à l'évolution des systèmes de valeurs en France, montre cette dimension de révélateurs sociaux. Qu'est-ce qui reste de dans ma bulle ? Alors, je ne dis pas, après ça, le plaisir d'écoute, etc. Mais d'un point de vue strictement sociopolitique, qu'est-ce qui reste de dans ma bulle aujourd'hui ? C'est que dans ma bulle est un des phénomènes qui, en 2006-2007, ont contribué, c'est pas le seul, à signaler la prégnance de nouveaux systèmes de valeurs qui combinent des normes habituellement considérées comme opposées. Merci.
Merci beaucoup, Denis. Je veux juste rappeler donc, que cet ouvrage a été publié en coédition, édition Mélanie Sétain et IRMA, Information Ressources pour les Musiques Actuelles à Paris. Et c'est toute la collection Musique et Société dans laquelle il y a une dizaine d'ouvrages qui marchent selon ce principe de la coédition. Effectivement, ça n'a pas été facile, y compris avec l'entourage de Diams, puisqu'on a essayé d'avoir leur accord pour au moins les prévenir. Et c'est vrai que ça a été, c'était tout un processus, et Denis Constant-Martin et son équipe ont aussi montré de la ténacité. Juste avant de vous donner la parole, c'est vrai qu'ils montrent ce qu'on peut faire de très sérieux avec le populaire. Tous les deux ont été capables, à différents moments de leur carrière, de faire abstraction de leurs préjugés, là sur la question des musiques noires, et peut-être là sur l'illégitimité d'un intérêt universitaire pour quelque chose de très commercial, de très mainstream, de très populaire. Et il y a des passages aussi très beaux et même émouvants, sur notamment à la fin de l'ouvrage, ils donnent la parole. Alors, il n'y a pas d'enquête de terrain auprès des amateurs de Diams, mais ils ont restitué les paroles des fans et qu'on trouve sur les forums. Ça peut sembler trivial comme ça, et pourtant, je crois que c'est représentatif de la démarche de l'ouvrage, de prendre au sérieux ces amateurs et de ne pas présupposer qu'ils sont simplement amateur passif d'un genre musical commercial.